soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans les tribunes de Sporama. Ambiance des grands soirs pour parler des chocs en stock sur les pelouses du championnat d'Afrique des Nations réservé aux joueurs locaux, le CHAN. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants, le plus proche de moi. D'ailleurs, c'est Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir auditeurs de VOA Afrique.
Non loin de la VOA Afrique, on retrouve Amédine Sy à Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, sur le continent, Amine Birouk est à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Un peu plus bas au centre, Valdo Simonyamba se trouve à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Enfin, à Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngoui. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Allez, Sporama, c'est parti. Le CHAN se poursuit en Algérie et on connaît les premiers qualifiés pour les quarts de finale. L'Algérie, le pays hôte, le Mozambique, le Ghana et hier, le Sénégal, après avoir nettement battu 3-0 la RDC. Amédine, les Lions locaux assurent leur place en quart.
Tout à fait, Élisée. Les Lions locaux ont assuré leur place en quart de finale de fort belle manière, hein, en éliminant la RD Congo sur le score de 3-0, dos au mur après la défaite concédée face à l'Ouganda lors de la deuxième journée. Les poulains de Pape Tchao ont bien négocié cette rencontre, hein, qui avait des allures de finale, cette rencontre contre la RDC. Les Lions locaux l'ont bien négocié en dominant quand même cette partie de bout en bout. Ousmane Diouf a ouvert le score à la 23e minute. Il sera suivi par Pape Diallo qui a doublé la mise à la 74e minute. Le troisième but sera inscrit par le gardien de but puisqu'il a commis une grosse boulette en voulant relancer le ballon. Il a relancé carrément dans ses propres camps. C'était sur un centre de Idemane Ousmane Cissé. Avec cette belle victoire, le Sénégal compose non seulement son ticket pour les quarts de finale, mais le Sénégal termine à la première place du groupe B, Élysée.
Merci Amédine. Et c'est la Côte d'Ivoire qui prend la seconde place du groupe suite à sa victoire de 3-1 devant l'Ouganda, s'offrant au passage son premier quart de finale depuis 2016. Une performance que ne réalisera pas la RDC. Alors, Valdo, double vainqueur de ce CHAN. Les Congolais ont simplement déçu dans un groupe B où ils terminent dernier sans aucune victoire.
Élisée, grosse déception, la RDC a été ridicule face au Sénégal. Le dernier match de cette phase de groupe du CHAN met à nu les limites tactiques et techniques de cette sélection de la RDC avec leur destin en main. Une seule option contre le Sénégal, l'emporter et passer au tour suivant. Malheureusement, le Sénégal a été plus réaliste en infligeant à la RDC ce score de 3-0. Quoique la RDC ait joué la majeure partie de ses duels en infériorité numérique, si lors des deux premiers matchs, la solidité défensive pouvait cacher certaines faiblesses, mais l'inefficacité offensive a fini par montrer ses limites. Aucun but marqué, malgré l'utilisation de tous les attaquants. Aucun joueur n'est donc épargné sur cette déconvenue. Que dire alors du banc congolais qui n'a pas su trouver l'équilibre parfait afin de mettre en place un 11 efficace et dynamique. Trois matchs, pratiquement trois 11 de départ, à quelques exceptions près. Élisée, c'est une maison qui s'est effondrée. Il faudra tout reconstruire.
Voilà qui est clair. Tout reconstruire, c'est aussi l'avis du sélectionneur Otis Ngoma.
Il faut qu'on arrive à restructurer notre football. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que les équipes se sont beaucoup mieux préparées que nous. Et que ces équipes sont devenues comme des équipes, des clubs. Ils s'entraînent ensemble, ils jouent ensemble, ils se connaissent avec un championnat régulier et avec surtout des garçons qui sont passés dans toutes les catégories d'âge. Je crois que la Fédération Congolaise de Football avec la Linafoot va essayer de faire un championnat régulier, mieux que ça. Et sinon, vous allez continuer à acquiser les entraîneurs qui n'ont pas de niveau, alors qu'on essaie de faire avec ce qu'on a.
Reste maintenant 3 tickets à prendre pour compléter le tableau de ces quarts de finale. Et un ira ce soir au vainqueur du match Soudan-Madagascar. Les deux derniers demain et Lawal. Pour celui de la poule T, le Mali et la Mauritanie devront se battre pour l'avoir.
Oui, Élisée, c'est un duel ouest-africain qui va forcément tenir ses promesses parce que les deux vont vouloir avoir la victoire obligatoire parce qu'une victoire pour l'un ou l'autre pays va sceller donc sa qualification. Maintenant, un match nul, ça va être compliqué pour les uns et les autres, mais le goal différentiel va forcément, en cas de match nul,
l'Angola a 2 points dans ce groupe,
le goal différentiel va forcément départager les uns et les autres, mais le plus important, c'est que le Mali et la Mauritanie vont batailler dur pour obtenir leur billet pour les quarts. Malheureusement, il fallait pas attendre le dernier match pour se battre. Les uns et les autres n'ont pas pu avoir les points nécessaires pour se sentir en sécurité. Et on espère que le meilleur va l'emporter. Et puis, le Chan va forcément délivrer ses derniers tickets pour les uns et les autres, Élisée.
Voilà qui est clair. Et on vient vers vous, Jules. On connaîtra aussi demain le qualifié du groupe E à l'issue du match Cameroun-Niger. Et pour le moment, avantage aux Lions indomptables locaux.
En effet, Élisée, dans ce groupe E à 3 avec le Congo, on pourrait dire avantage sur le papier aux Lions indomptables face au Niger si on tient compte de la carrure et du vécu des deux footballs au palmarès manifestement déséquilibré, ceci en faveur de l'équipe fanion du Cameroun. Mais ici, il s'agit uniquement de la catégorie des A' locaux, une catégorie où les nations de coup, en particulier celles du sud du Sahara, comme le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou justement le Cameroun, ne bénéficient pas de la même cote que lorsqu'il s'agit de leur formation première constituée de professionnels expatriés. Au Chan, ce sont plutôt des pays comme l'Ouganda, le Mozambique, l'Angola, l'Éthiopie ou justement le Niger, dont la composition de l'équipe A' n'est pas très différente de celle des A tout court, qui sont des adversaires dangereux. Par contre, si l'on tient compte de la nouvelle dynamique qui anime l'administration du football camerounais, avec la disparition des récurrents problèmes de primes du passé, le président Eto'o n'hésitant pas à ajouter sa prime personnelle, il est clair que les Camerounais surmotivés et ayant leur destin en main se battront comme des lions indomptables pour atteindre leur objectif.
La victoire est impérative donc pour le Niger et pour cela il faudra améliorer certaines choses, reconnaît le sélectionneur du MENA local Haruna Doula.
Je pense que c'est déjà assez de remonter mentalement les joueurs, peut-être avec un entretien, avec des vidéos pour essayer d'apporter des corrections. Il faut dire que l'autre équipe va bénéficier de beaucoup plus de temps de récupération, donc beaucoup plus de fraîcheur. Oui, on va jouer une finale contre le Cameroun. On a nos cartes en main. Je pense qu'on va bien les jouer. On va les contraindre à la faute. On va en tout cas trouver les moyens pour les contraindre à la faute et éventuellement espérer poursuivre cette compétition.
Et voilà qui est clair. À noter que les quarts de finale débuteront le vendredi prochain. Une Coupe d'Afrique des joueurs locaux qui se disputent sans le Maroc pour des raisons politiques, on le rappelle. Suite à ce retrait, la CAF a ouvert une enquête et le tenant du titre s'expose à des sanctions. Amine, le royaume chérifien risque gros.
Continuera à se dérouler sans le Maroc, empêché, je dis bien empêché de disputer la compétition parce que on va revenir peut-être au fait de la semaine dernière où l'équipe du Maroc était disposée à se rendre à Constantine dans son avion par un vol direct. Les autorités algériennes n'ont jamais pu délivrer leur OK par rapport au plan de vol. Et donc, il y a eu, entre guillemets, non-participation du Maroc. Une enquête a été ouverte, mais aujourd'hui, si vous vous en tenez au communiqué de la commission d'organisation du Chan, on parle de l'absence du Maroc et non du forfait du Maroc. Une absence n'est pas un forfait. Les termes, sur le plan juridique, n'ont pas la même signification. Un forfait pour le Chan, à moins de 20 jours de la compétition, équivaut à une interdiction de disputer la compétition lors de 2 éditions successives. C'est ce qui est arrivé à la Tunisie, qui devait prendre part à l'édition du Cameroun et qui s'était désisté quelques mois avant le début de la compétition. De ce fait, la Tunisie n'a pas pu prendre d'ailleurs part aux éliminatoires et n'est donc pas présente dans ce grand mess des joueurs locaux du football africain. Ce qui est certain, c'est que le Maroc a ses arguments. Et s'il y a sanction de la part de la CAF, elle ne pourra toucher que l'équipe nationale locale, ou U23. Et s'il faut aller au TAS, le Maroc a de solides arguments pour pouvoir bien évidemment prouver sa bonne foi et éviter toute sanction sévère de la part de la Confédération africaine de football.
Voilà, des sanctions pouvant aller jusqu'à 150 000 $ d'amende et l'exclusion des deux prochaines éditions du CHAN. Jules, c'était prévisible?
De prime abord, oui, Élisée. Au vu de la gravité des faits, du timing, mais aussi des précédents concernant essentiellement cette partie nord de l'Afrique, qui a pourtant tout pour jouer un rôle idéal de locomotive pour le football continental dans son ensemble. On se souvient que lors de la CAN marocaine de 1988, l'Égypte, alors championne en titre, s'amusa à envoyer une équipe d'Olympique sous le prétexte que la formation A se préparait pour des échéances mondiales plus importantes. Ironie du sort, de nos jours, contrairement au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal ou au Maroc, l'Égypte ne peut compter que sur son palmarès de la CAN pour justifier son statut de puissance africaine de football. Tout le monde a également encore à l'esprit le désistement de dernière minute du Maroc dans l'organisation de la CAN 2015 avec le risque de l'humiliation suprême de la jouer au Qatar pour cause de reprise d'Ebola à 4 000 voire 6 000 km de là. La Guinée équatoriale sauva heureusement la mise. Alors, pour le cas d'espèce actuel, au lieu de se laisser entraîner, comme je le crains, dans un long feuilleton juridique improductif, la CAF doit zapper, en se contentant de sanctions minimales symboliques. Par contre, elle se doit désormais d'intégrer le critère de frilosité diplomatique au même niveau que celui des risques sécuritaires et sanitaires pour l'attribution de ces compétitions. La nécessité de rentabiliser des installations chèrement acquises va amener certains à être plus pondérés. Rien de tel que la jurisprudence pour réadapter la loi.
Il faut également signaler que l'Algérie, pays hôte de la compétition, entretient des relations très tendues avec le Maroc. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Marocains n'ont pas fait le voyage pour participer à la compétition. Ahmedine Sy, les Algériens aussi ne seront pas épargnés.
Élisée, je l'ai dit et je le répète, hein, c'est inadmissible car cette 7e édition du championnat d'Afrique de football en réservé aux joueurs locaux ne devait pas se tenir hein, sans la présence du double tenant du titre, le Maroc. Car les Marocains ont fait tout ce qu'ils devaient faire pour prendre part à cette compétition. Je ne sais pas ce que la Confédération africaine de football reproche au Maroc. Pour moi, le fait d'ouvrir une enquête n'a pas de raison. Une enquête pour savoir quoi? Pour moi, les choses sont claires, nettes et précises. L'Algérie est seule responsable de ce qui s'est passé et on ne doit pas sanctionner le Maroc. À mon avis, les responsables de la CAF doivent prendre leurs responsabilités en sanctionnant sévèrement l'Algérie pour éviter ce genre de comportement. Car encore une fois, nous sommes en sport, pas en politique. Élisée.
Lawal, ces deux pays risqueraient aussi de perdre l'organisation de la CAN de 2025.
Oui, Élisée, le Maroc, beaucoup plus que l'Algérie. Parce que le Maroc, par le passé, a déjà montré un certain nombre de signes de fébrilité par rapport à l'organisation des compétitions. Et si éventuellement le Maroc organisait la CAN 2025, ce qui n'est pas encore une certitude, et que l'Algérie refusait de participer, ça va forcément avoir un impact négatif sur la compétition. Donc il est beaucoup plus judicieux que quand on retire une compétition à un pays dans une région, qu'on attribue cette compétition à d'autres pays de la région qui sont prêts à le faire. Donc, et aujourd'hui, quand on a retiré la CAN à la Guinée, dans l'Afrique de l'Ouest, il y a deux pays qui sont prêts
à l'organiser,
le Bénin, le Nigeria, pourquoi ne pas leur donner cette opportunité, encore que le Bénin n'a jamais joui de cette organisation, pourquoi ne pas offrir cette possibilité au Bénin? Élisée, la politique doit pouvoir se taire et laisser parler le foot. C'est ça le plus important, Élisée.
Merci Lawal. Outre le duo Bénin-Nigeria et le Maroc à l'Algérie, l'Afrique du Sud aussi a déposé sa candidature pour l'organisation de cette CAN 2025 retirée à la Guinée. handball à présent. Avec le mondial senior chez les hommes, et l'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu Bahreïn 26-22. Jules, les Pharaons sont clairement en confiance avant d'affronter le Danemark pour la première place du groupe.
Élisée, c'est que l'Égypte confirme tout simplement avec ce parcours gagnant contre de solides formations et sa qualification déjà acquise pour les quarts, son appartenance au cercle très fermé des meilleures nations mondiales actuelles en matière de handball masculin. Un succès contre le Danemark pour la première place du groupe lui permettrait d'éviter un très gros en quart de finale et de garder toutes ses chances de prolonger son séjour polonais. Mais le Danemark est tout simplement ce qui se fait le mieux sur la planète handball aux côtés de la France, l'Espagne, la Suède ou le Portugal. C'est un champion sortant qui aura les mêmes objectifs, même si l'Égypte, elle, peut exploiter son statut d'outsider de circonstance pour évacuer la pression qui accompagne toujours de tels matchs couperets. Dans tous les cas, une rencontre au sommet en perspective avant les échéances qui comptent.
Pour les autres représentants africains qui jouaient les matchs de classement, le Maroc a renversé l'Algérie 28-27 dans une fin de rencontre spectaculaire. Amine, belle victoire des Lions de l'Atlas Handballeur qui se replace dans ce groupe.
Je parlerai de victoire historique de la part des Marocains dans la mesure où ces derniers ont été menés tout au long quasiment de la partie face à un adversaire qui les avait battus lors de la dernière édition du championnat du monde. Rappelez-vous, l'équipe du Maroc avait mené au score pendant toute la partie. Elle avait même eu un écart conséquent de 8 buts et les Algériens étaient revenus au tout dernier moment. Mais écoutez, c'est l'arroseur arrosé. C'est le phénomène de l'arroseur arrosé qui s'est produit aujourd'hui lors d'une compétition mineure qui est la Coupe du Président réservée aux nations qui ont terminé quatrième de leur groupe. C'est une phase de classement entre la 25e et la 32e place. Les Marocains étaient menés d'un but à une minute de la fin. Ils ont pu égaliser quasiment in extremis et puis sur une dernière balle, sur une dernière montée de balle, ils ont pu accrocher la victoire à 2 secondes de la fin. Je dirais deux sentiments contrastés. La joie et l'euphorie du côté marocain, l'abattement et la tristesse du côté algérien. C'est ce qui fait la beauté du sport et aujourd'hui, on n'a pas pu sentir la tension qui était latente ou la tension politique et latente entre les deux pays. Ce qui est certain, c'est que les Marocains évitent la dernière place du classement dans ce groupe. Ils devront bien évidemment affronter la Macédoine du Nord et en cas de bonne performance, ils pourraient opter à une place entre la 25e et la 28e place, ce qui serait un classement plutôt conforme aux ambitions du royaume chérifien qui a une nouvelle fois raté le coche lors du match décisif face aux États-Unis au tout début de la compétition.
Un groupe dominé par la Tunisie, vainqueur 33-28 de la Macédoine. Valdo, les Tunisiens attendus dans ce mondial ont quand même déçu.
Élisée, au regard de ce qu'a été la préparation de cette Coupe du Monde, il y a de quoi regretter et être déçu. Parce que la Tunisie avait bien les atouts pour valider son ticket au tour principal. Il n'y a rien à regretter d'une autre part lorsque vous perdez contre le Danemark, champion du monde en titre, mais le nul de 27 égal face au Bahreïn et surtout la défaite 31-29 face à la Belgique a été une véritable désillusion subie par cette sélection dont les attentes étaient grandes. Et lorsque vous n'avez aucune victoire en 3 matchs des phases de groupe de la Coupe du Monde, mieux à espérer, c'est de soigner sa place au classement final de la compétition avec les matchs des classements qui leur réussissent et la gestion est sans trop de pression. Après une première victoire sur le Maroc, ils viennent d'infliger une autre défaite à la Macédoine. Mieux à faire, c'est de revenir fort. Alors très fort au prochain mondial pour cette fois-là aller rivaliser d'ardeur avec les meilleures nations au tour principal.
Voilà, Lawal, l'Afrique doit redoubler d'efforts, une seule équipe sur les 5 en quart de finale.
Non, Élisée, il y a la qualité du handball africain qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que les autres font. Et en Afrique, on a du mal à performer chaque fois. On a du mal à performer. Donc, fondamentalement, les Africains redoublent d'efforts. L'Égypte a déjà réussi à sauver l'honneur. en se qualifiant directement, les autres vont forcément faire ce qu'ils doivent pour maintenir la flamme.
Donc les résultats sur le soir d'Afrique depuis plus de trois ans,
depuis plusieurs années. Donc fondamentalement, les équipes africaines ont encore du pain sur la planche, ont du travail à faire, et donc on espère que pour les prochaines années, l'Afrique finira par dominer le monde, Élisée.
On l'espère, Lawal. Rappelons que ce mondial se joue en Pologne et en Suède. Et en Pologne. Pendant ce temps, s'effectuait le tirage au sort de la composition des groupes du championnat du monde des juniors. 6 sélections masculines africaines sont concernées. Amédine, 3 sont logées dans le groupe B, l'Algérie, la Tunisie et la Libye, qui feront face à l'Allemagne.
Oui, Élisée, ce groupe B hein, est celui des Africains, car on retrouve 3 hein, des 6 représentants africains dans cette poule, car l'Algérie, la Tunisie et la Libye se retrouvent dans ce groupe B en compagnie de l'Allemagne. Je pense que le fait de retrouver hein, 3 équipes africaines dans un même groupe est une très bonne chose, car cela donne forcément à l'Afrique au moins une équipe qualifiée. Mais les 3 représentants africains ne doivent pas se contenter que de cela, car pour moi, ils doivent tout faire hein, pour créer l'exploit. Créer l'exploit, c'est quoi? C'est battre hein, l'Allemagne. Battre l'Allemagne, c'est une mission très difficile, mais pas impossible, car nous sommes en sport Élysée.
Dans le groupe D, l'Angola va se mesurer à l'Espagne, aux îles Féroé et au Japon. Amine, le Maroc de son côté jouera la Serbie, l'Islande et le Chili dans la poule G.
Et le Maroc jouera contre 2 grandes écoles du handball mondial. L'école des Balkans, représentée par la Serbie, des joueurs dotés d'une technique individuelle, de fondamentaux du jeu et qu'ils sont capables, dans un bon jour, de dynamiter une rencontre. Et puis la deuxième école, c'est celle des pays scandinaves, l'Islande, étant un fidèle représentant d'un handball très physique, avec de grands gabarits, avec une adresse à distance, avec des pivots qui sont massifs, et ils sont capables de faire la différence à tout moment. Ce sont également 2 sélections qui basent leur tactique de jeu sur une excellente défense, de très bons gardiens de but. Et puis il y a les équipes d'Amérique du Sud qui sont aujourd'hui des nations émergentes, en la personne du Chili qui sera certainement l'outsider de ce groupe. L'objectif pour la jeune sélection marocaine, c'est de l'apprentissage, c'est s'aguerrir, c'est acquérir de l'expérience en se confrontant à ces écoles, sans de grosses prétentions, sans de grosses ambitions, en prenant match par match et en essayant de faire la meilleure figure possible tout au long de la compétition.
Et puis Valdo, l'Égypte va évoluer dans le groupe H en compagnie de la Grèce, Cuba et l'Arabie Saoudite.
Élisée, c'est un groupe H qui ne regorge pas des favoris. La sélection égyptienne peut bien en profiter afin de jouer sa carte. C'est une phase finale des Coupes du Monde. Contrairement aux seniors, cette sélection junior des pharaons n'a pas grande histoire sur le continent. Participer à cette phase finale des Coupes du Monde du football est un retour sur la scène mondiale. Après beaucoup d'éditions d'absence, il y a de quoi justifier sa présence parmi les 6 nations africaines. Ses adversaires ne dégagent pas aussi une grande différence, si ce n'est des sélections à découvrir aussi, de la Grèce à l'Arabie Saoudite en passant par Cuba. Il y a lieu juste de mieux affûter ses armes afin de rivaliser efficacement et pourquoi pas prendre l'ascendant sur eux et aller le plus loin possible dans cette compétition. Ce qui est certain, tout dépendra de la manière dont chacune des sélections va aborder son premier match et surtout de la capacité à réagir après la première entame.
À noter que la compétition aura lieu du 20 juin au 2 juillet prochain en Allemagne et en Grèce. Sporama, c'est fini. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Au revoir. We'll be right back.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.